On est moins nombreux que le premier culte, mais ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Mais on espère qu'avec la suite des temps, l'Église puisse justement s'étoffer et avoir vraiment qu'on puisse remplir cette salle de francophones, de gens qui aiment cette langue et qui aiment entendre la parole dans cette langue. La Bible nous dit que la parole de Dieu est bien sûr inspirée de Dieu. Et ce que j'ai sur le cœur de vous apporter cet après-midi, c'est vous apporter le cœur de la parole de Dieu. Vous savez ce que c'est que le cœur de la parole de Dieu? C'est bien évidemment Jésus. Parce que vous pouvez prendre la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et le centre de cette parole, c'est Jésus. Il est présent partout. On va peut-être prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te bénir parce que c'est ta parole. Et ta parole, Seigneur, c'est tellement important. Tellement important dans nos vies, parce que c'est elle qui nous fait grandir, c'est elle qui nous rapproche de ton cœur, c'est elle qui fait de nous ce que nous sommes. Tu nous as transformés, Seigneur. Tu es venu nous chercher dans notre chemin de perdition. Tu t'es révélé à nos cœurs, tu nous as choisis. Et ça aussi, Seigneur, quel mystère pour nous. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Mais ainsi en est-il, et nous voulons te louer pour cela, Seigneur. Je sais que ton cœur est tellement grand qu'il prend toute la population, le monde entier, tout ce monde. Tu as donné ta vie pour qu'aucun ne périsse, c'est ce que tu nous dis. Et, Seigneur, quelle réalité! Merci, Saint-Esprit, de mettre tes paroles sur ma bouche. Merci de toucher nos cœurs là où nous en avons besoin. Ça, c'est ton œuvre, Saint-Esprit, et nous voulons que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci. Amen. On va lire un passage dans Zacharie. J'aime bien Zacharie, parce que c'est un prophète qui nous révèle non seulement beaucoup de choses sur Jésus, mais qui nous parle aussi de ce que nous sommes. Et on va lire au chapitre 4, on va lire le verset 6 et le verset 7. On y est? Ah ben c'est magnifique. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Le contexte de ce passage, c'est que le peuple d'Israël, comme à l'accoutumée, il marche un moment avec Dieu, et puis il se lasse et se détourne de Dieu. Mais là, le peuple de Dieu a réussi tellement à mettre Dieu en colère qu'ils sont exportés pendant 70 ans. Et puis, Dieu va non pas se repentir, mais il aime le peuple d'Israël. Et il veut ramener son peuple à lui. Et il va tout faire pour le ramener. Et pour ça, il va parler à un homme qui s'appelle Zacharie, qui est prophète, et qui s'adresse à un autre homme qui s'appelle Zorobabel. Zorobabel, ça signifie « étrangère Babylone ». C'est bizarre hein, comme nom. « Étrangère Babylone ». Ça veut tout simplement dire que... Alors, qui est Zorobabel déjà? Zorobabel, il est gouverneur. Il est le chef des Juifs. Et c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et pourquoi Zorobabel est là? Parce qu'il a entendu parler que Darius a fait un décret, pardon, Cyrus a fait un décret comme quoi il autorise les Juifs de retourner dans leur pays et reconstruire le temple. Et là, Zorobabel, il est à fond. Il se dit, waouh, je veux y aller. Et il va y aller. Il va y aller et il est là dans cette réalité, dans son désir de vraiment de reconstruire ce temple. Le premier temple, c'était celui de Salomon, et le deuxième temple, on l'appelle le temple de Zorobabel. Bizarre, hein, mais c'est comme ça. Parce qu'il a eu ce désir ardent au fond de son cœur de voir le temple reconstruit. Donc Dieu, dans sa grande irritation, a déporté le peuple juif pendant 70 ans. Mais, vous savez, on a un Dieu qui est extraordinaire et la Bible nous révèle son cœur, c'est sa compassion. Il a vraiment la compassion pour le peuple d'Israël. Si vous lisez le chapitre 8 de Zacharie, à un moment il dit « Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. » Wow, quelle révélation! Dieu veut habiter au milieu de son peuple. C'est pour ça qu'il va dire « Mais revenez à moi !» Alors, on pourrait se poser une question. On pourrait se dire c'est quoi? C'est qui fait une faveur à qui, hein? On pourrait se dire, c'est comme dans une histoire d'un couple, on est bien ensemble, et puis d'un seul coup, la femme part, et puis l'homme est désemparé, évidemment, dans ces circonstances, l'homme est toujours désemparé, et puis il dit, mais reviens à moi, hein? Fais-moi cette faveur de revenir à moi. Mais là, qui fait une faveur à qui? Hein? Ce n'est pas le même contexte. Quand Dieu dit « revenez à moi », c'est parce que Dieu sait où va la population, où va son peuple, où va les hommes, où vont les hommes. Il sait que s'ils ne reviennent pas à lui, c'est la destruction. Parce que la seule chose que le diable veut, c'est détruire l'homme. Excusez-moi, je vais prendre un petit remontant. Ce n'est pas du tout qu'agace. C'est juste de l'eau. Et l'eau, ça fait du bien. Donc revenez à moi, parce que j'ai une faveur à vous faire. Je veux vous bénir. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis le départ, Dieu veut bénir les hommes. Il a créé ce monde, il a créé l'homme, la femme, il a mis l'homme et la femme dans un écrin extraordinaire pour le bénir. Alors, ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui vont me dire, mais la bénédiction dans le monde aujourd'hui, avec ce qui s'y passe. Et pourtant, oui, Dieu veut te bénir. Reviens à lui. C'est un appel. Parce que Dieu nous dit, je veux te faire une faveur imméritée, quelque chose d'extraordinaire. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient heureux. Il se levait le matin, Dieu venait, parlait avec Adam, il disait, tiens, j'ai un boulot pour toi, tu vas donner le nom, tu vas nommer tous les animaux, ou autre chose, on ne sait pas, on n'a pas tout le détail. Et c'était une relation, c'était quelque chose de profond. C'était, je viens parce que je t'ai créé, et en plus de t'avoir créé, je veux que tu sois mon ami, je veux qu'on soit ensemble. Qu'on construise des choses ensemble. Ça, c'était le plan de Dieu. Alors, le problème, c'est qu'au milieu du jardin, il y avait un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous connaissez toute cette histoire. C'est dommage qu'Adam et Ève, ou en tout cas qu'Adam, n'aient pas pensé dire oh, « Je vais mettre un gros écriteau avec une tête de mort. Ne pas toucher. » Il n'a pas osé. Il aurait pu mettre des mines aussi autour. Ou il aurait pu mettre une barrière électrique ou quelque chose. Pour pas qu'Ève vienne puis prenne le fruit. Il aurait pu attacher sa femme aussi. Mais bon, je sais pas. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que nous sommes libres. Dieu veut que les hommes soient libres, libres de leur libre arbitre, de choisir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Et Dieu nous invite à faire un choix. Ce choix, c'est de le choisir lui. Parce qu'on n'a pas un meilleur ami que lui. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est sûr. C'est sûr, ça fait quelques années que je marche avec lui. Et chaque fois, je suis émerveillé, je me dis, waouh, Seigneur. Chaque fois, quand je me dis, waouh, tout est en train de s'écrouler, il y a des trucs qui ne vont pas là, et tout ça, d'un seul coup, il arrive et il fait les trucs, il remet en place. Il fait, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon, quoi. qu'est-ce que tu es bon. Avant de venir à Madagascar, quand j'ai vu ce que je devais faire ici, je me suis dit, oulala, c'est pas possible, non, pas pour moi, je suis pas capable de faire un truc comme ça. Le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas, méprise pas les petits commencements, je marche devant toi. Ah ben, j'ai dit, si c'est le cas, Seigneur, je viens. Et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Que ce soit pour le projet qu'on a sur la brousse, que ce soit pour le projet au centre, on voit la main de Dieu, on marche à son pas, pas plus vite, mais c'est bien. Dieu aime faire grandir les choses avec patience, avec du temps. Hein? Et puis, si tu es jeune et découragé parce que tu te dis, oh, moi, il y a encore ça dans ma vie, je ne suis pas, oh, Dieu m'appelle à être saint, mais si je regarde à ma vie, je ne suis pas très, très saint. Hein? Puis même quand on est vieux, on se dit, oh, il y a encore du boulot à faire, hein, Seigneur, hein? c'est pas évident. Hein? Mais Dieu va faire ce travail, il est là, il est présent, il est fidèle, il a commencé, vous êtes en chantier. Vous savez ça? Dieu a commencé un chantier dans votre vie. Hein, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans une maison délabrée, qui est la vôtre, et il a commencé à la retaper. Et il la retape. Et il fait. Et il enjolive. Et ça, c'est son boulot. Pourquoi? Il nous transforme jour en jour à l'image de Christ. Le jour où on va le rencontrer, en un instant, on va être transformé. Ce corps corruptible va être transformé en un corps incorruptible. Et on sera dans la grâce de Dieu, amen, dans sa présence. Et Dieu nous demande aujourd'hui de vivre comme lui vit. Mais je m'éloigne un petit peu de mon sujet et on va y revenir. Dans le jardin d'Éden, il y a eu séparation. Séparation de Dieu avec les hommes. Et ça a été terrible. Parce que lorsque Ève a goûté du fruit et l'a donné à son mari, il y a eu une cassure. Vous savez? Est-ce que vous avez déjà vécu des cassures relationnelles? Un ami, c'est mon meilleur ami. Waouh, on est potes comme deux frères et tout ça. Et puis arrive un jour, on ne sait pas pourquoi, boum, il se passe quelque chose. Je vous raconterai bien une histoire, mais hop, je vous la raconte, hein. Avant d'être chrétien, j'étais parti avec un bus VV au Maroc. Et le long de la route, on a rencontré deux belles petites Hollandaises qui faisaient du stop. Et j'étais avec mon copain. Je dis, waouh, super. Je n'étais pas chrétien. mais j'étais un baba cool. Vous savez, peace and love. Vous avez entendu parler de cette époque merveilleuse. Hein? J'appelle l'époque opaque ou l'époque épique, comme vous voulez. Mais c'était une époque, je suis passé par là, je ne regrette pas. Et je me suis amouraché d'une des petites Hollandaises là, et puis on s'est fréquenté pendant 3 ans. Et j'avais un bon ami, mon meilleur ami, il était aussi flûtiste. On jouait ensemble, on s'était promené le long des routes, on avait été de ville en ville, jouer dans des... Parce que je faisais de la musique, bien sûr, à l'époque, un hippie fait toujours de la musique. Et puis un jour, il m'a piqué ma copine. Oh, la traîtrise. Mais on ne pouvait rien dire parce que...
Dieu merci.
Mais... On ne pouvait rien dire parce que la philosophie des hippies à l'époque, c'était rien n'appartient à personne. Tout appartient à tout le monde.
Dans les actes, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais là, j'ai vécu une déchirure avec mon ami. Et c'était grave, c'était profond. Je me suis dit, waouh, plus jamais je vais pouvoir lui accorder ma confiance. C'est pas possible. Dans cette séparation qui a eu lieu entre l'homme et Dieu, le problème, c'est qu'il y a un Dieu souverain, il y a un homme qui se veut souverain, mais qui ne l'est pas. C'est ça le gros problème. Et l'homme aujourd'hui rejette Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut être son propre Dieu. Hein? On disait à l'époque, sans foi ni loi. On ne voulait pas de loi. On ne voulait pas la foi, on ne voulait pas appartenir à quoi que ce soit. Mais quelle erreur, quelle stupidité. Parce que celui qui a la foi, celui qui a cette relation avec Dieu aujourd'hui, mais c'est extraordinaire, parce que Dieu le dirige, Dieu lui parle, il y a une relation profonde, mais l'homme rejette Dieu. Alors, on voit tous les résultats de ce rejet aujourd'hui, l'écrin que Dieu avait fait pour l'homme, parce que c'est ça, vous savez ce que c'est qu'un écrin, hein ? Quand on a un beau bijou, on achète un beau bijou, on a une belle boîte en cuir avec du velours dedans et tout ça, on appelle ça un écrin. Et l'écrin, Dieu a fait de nous son joyau, son bijou. Et l'écrin qu'il avait fait pour nous, c'est la terre. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, l'écrin que Dieu nous avait fait est en train de se détruire. La pollution. Et puis, on s'aperçoit que dans cet écrin, il se passe des drôles de trucs. Il y a des guerres, des violences, des relations brisées, des couples brisés, des orphelins, des affamés, et j'en passe. Donc ce monde n'est pas terrible. C'est triste même, c'est très très triste. Mais ça, c'est le résultat de vouloir marcher sans Dieu. L'homme sans Dieu n'est pas souverain comme il le croit. Vous savez, l'homme est prétentieux et d'une prétention énorme. Il croit tout régler, il est capable avec ses technologies, ses trucs, il va dire je vais tout arranger, ça, il n'y a pas de problème. Mais quelle prétention ! Il se prend pour Dieu, il se croit être souverain, alors qu'il n'est absolument pas souverain, parce que si ce n'est pas Dieu qui dirige, qui dirige ? Ce n'est pas l'homme, c'est le prince de ce monde. Et on sait que le prince de ce monde, c'est Satan. Et on sait que Satan n'amène que la destruction. Et c'est ce qui se passe. En fait, l'homme sans Dieu, son maître, sans qu'il le sache. Et c'est là où il est très fort, le malin. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. C'est là qu'il est très fort. C'est que le malin réussit à faire croire à l'homme qu'il est souverain. Et qu'il est libre, qu'il n'a pas de chef et qu'il fait ce qu'il veut. Ouais, manque de peau. Parce que l'homme livré à lui-même, c'est l'homme charnel. Et l'homme charnel, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dirigé par ses propres désirs. Ses propres désirs sont influencés par l'ennemi qui vient dans son esprit pour lui dire « Ah, là, tu vas là-bas, bien là-bas. » Il nous attire dans ses pièges. Et une fois qu'on est comme le rat qui rentre dans la cage, il va manger le fromage. Il mange le fromage et la trappe se referme. Et l'homme est piégé. C'est pour ça qu'il y a tant de désespoir, tant de suicides, tant de gens qui ne savent plus quoi, ne comprennent rien, parce qu'il n'y a plus la connexion avec le Seigneur. Pourtant, même après cette séparation, même après ce clash qu'il y a eu au Jardin d'Éden, Dieu va essayer de donner des directives à l'homme en lui disant « voilà ce que j'aime ». Dans l'Ancien Testament, il donne la loi, il lui donne toutes sortes de choses et il lui dit « si, c'est dans Deutéronome 28, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, hein, Dieu va te, si tu suis ses commandements, non, il l'a pas mis, c'est pas grave ». Ça vient ? Non ? Bon, c'est pas grave.
Voilà.
Hein ? Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Et après, il fait la promesse, non seulement s'ils obéissent, que Dieu va les combler de toutes sortes de bénédictions, et qu'on va jouir de ces bénédiction à la ville comme à la campagne. Et il nous bénira en donnant de nombreux enfants, d'abondance récolte, etc., etc. Dieu veut bénir l'homme, c'est son désir le plus profond. Le problème, c'est que l'homme est incapable, absolument incapable d'accomplir ce que Dieu veut. Et ça, il faut qu'il s'en rende compte. Et on va revenir à notre texte du début. Rappelez Zorobabel. Zorobabel, lui, il est tout feu, tout flamme, il veut construire le temple. Il a entendu, il veut faire, il avance, il se donne, il y va. Et puis, Dieu parle par Zacharie et il dit, hop, c'est pas par la puissance, c'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Pourquoi il dit ça à Zorobabel? Parce que Zorobabel, lui, il a ses stratégies. Il dit, ouais, je vais faire comme ça, je vais prendre le tailleur là, je vais prendre ci, le meilleur charpentier, etc., etc., etc. Il a créé, il a toute une stratégie. Il a écrit sur le papier, il a dit, oui, un tel, là, c'est des bons ouvriers, des bons artisans, etc., etc. Et puis, il se démène là-dedans, puis il oublie le principal. Et le principal, c'est quoi? C'est Dieu. Hein? Et Dieu lui dit, hop, 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 top. C'est pas par ta puissance, c'est pas par ta force, mais c'est par mon esprit qu'on fera les choses. Et pour rassurer Zorobabel, parce qu'en fait, je les connais bien, les gens qui fonctionnent comme Zorobabel. C'est des perfectionnistes. Ils se mettent à fond dans leur tâche. Ils ne savent pas comment y arriver. Ils se découragent, ou pas. Mais ça aboutit pas. Ça ne va pas aboutir. Pourquoi? Parce que pour eux, devant, c'est une énorme montagne. C'est une énorme montagne, elle est là, cette montagne, il faut que j'atteigne, il faut que j'arrive. Zorobabel, il se dit, il faut que j'arrive à construire le nouveau temple, il faut absolument que je le rebâtisse. Mais c'est une montagne. Finalement, comment faire, Seigneur? Il y a tellement de détails, de choses à régler, j'y arrive pas. Et Dieu va lui dire quelque chose d'intéressant, là. Hein? Il ne s'adresse pas à Zorobabel, là, il lui dit, mais qui es-tu, grande montagne? Hein? Ça ne vous rappelle rien, ça? Vous avez eu des montagnes dans votre vie, des montagnes qui étaient plus grosses que vous, où vous disiez, mais comment je vais pouvoir passer au-delà, hein? Ben Zorobabel, il est dans cette situation. Et Dieu va dire à la montagne, il va lui dire, tu seras aplani, tu seras aplani. Dieu va aplanir ta montagne comme il a aplani la montagne de Zorobabel. Pourquoi? Parce qu'il va poser la pierre. La pierre principale, au milieu des acclamations, au milieu des gens qui vont dire « grâce, grâce pour elle ». Ça veut dire quoi ça? Quelle est cette pierre extraordinaire? Quelle est la grâce, cette faveur imméritée de Dieu? On va lire dans Zacharie 6, les versets 12 et 13. Aïe, aïe, aïe. Il est dit... Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Wow. Le germe, la pierre principale, la pierre de l'angle, ça ne vous rappelle rien? Jésus, Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il le disait aux pharisiens, qu'il le prenait pour un fou. Il leur a dit, vous voyez le temple là, parce qu'il est encore debout, du moins ce qui restait, le temple de Salomon. Vous voyez, moi, retirer pierre sur pierre là, vous pouvez tout retirer, moi, en 3 jours, je vais le rebâtir. Puis il disait, mais il est malade, le gars, là, il est complètement allumé. Comment il va construire un temple qui a permis, il a fallu des années pour le construire. En fait, Jésus parlait d'un autre temple. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église est composée de temples, de pierres vivantes, qui consiste et qui est vraiment ce temple, véritablement ce temple. Et c'est ça qui est important. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça a été Jésus. Et en 3 jours, il a reconstruit. Il est mort sur une croix. On l'a enterré. Il est ressuscité. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait? À la Pentecôte, il a envoyé son Esprit Saint. Pourquoi? Pour que l'Esprit Saint puisse habiter dans chacun de nous. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. C'est le plus beau don que Dieu a pu faire aux hommes sur cette terre. La reconnexion. Vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes reconnectés. Et vous le savez. Si tu n'es pas reconnecté, demande à Dieu. Il va te reconnecter. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Ah oui, je ne suis pas capable de... Et puis toi, mes péchés, et puis... Ça, c'est le diable qui te baratine. Laisse tomber tout ça. C'est une montagne. Mais c'est une montagne que Jésus va aplanir. Que Jésus va aplanir. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas par ta religiosité, ta façon à bien faire les choses. Et qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu es devant Jésus? Tu vas dire, ah, regarde Seigneur ce que j'ai fait à Madagascar. Ça ne va pas faire grand-chose, honnêtement. Franchement. C'est ça qui va valoir devant Dieu? Non. La seule chose qui va valoir devant Dieu, c'est de dire, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as payé le prix pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Tu as été brisé pour moi. Et c'est pour ça que je suis là avec toi. Je t'aime, Seigneur. C'est tout. C'est tout. C'est la réalité. Le reste, c'est du pipeau. Bien sûr Dieu, il n'a pas créé l'homme pour qu'il se tourne les pouces. Ce serait grave. Est-ce qu'on est là pour se tourner les pouces? Non, on est là pour construire, faire des choses, pour avancer. Et alors, bien sûr que Dieu met des œuvres devant nous qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dans la joie, dans la paix, pas dans la culpabilité en disant « faut que je fasse ça parce que sinon je ne vais pas mériter mon salut ». Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il nous donne des choses à faire. Pourquoi ? Pour qu'on soit dans la joie, pour qu'on voit des choses s'accomplir. D'ailleurs, les choses entre nous, elles s'accomplissent grâce à Dieu. Hein ? Parce que bien souvent, il met des choses devant nous, on se dit, waouh, encore une montagne. Ben non, je l'aplatis, je suis là, j'avance. Hein ? C'est ça. C'est ça, ça marche comme ça avec le Seigneur. On a un grand Dieu, un Dieu extraordinaire, il nous aime. Donc autrement dit, et puis je ne veux pas aller bien longtemps encore, hein. Ça va, je ne vous endors pas trop? Ça va?
Ça va, vas-y.
Le Seigneur a ouvert la voie. Vous savez, j'aime bien, dans les premiers chrétiens, ils parlaient de la voie. Hein, ils parlaient de la voie. Tu suis la voie. Et ils savaient ce que ça voulait dire. Hein, la voie, c'était suivre Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et ils le savaient, ils l'avaient entendu. Et pour eux, c'était la voie. Et Dieu a ouvert la voie pour nous. Et cette voie, c'est Jésus. Elle est grande ouverte pour celui qui veut. Il n'y a pas rien à payer. Il n'y a rien du tout. Toute la parole de Dieu nous parle de ça. Ésaïe nous en parle. Il dit, viens, toi qui as soif et tout ça, viens sans rien payer, viens, prends, mange, bois. C'est ça notre Dieu. Il dresse une table devant nous. Et il veut que nous nous servions de cette table. Ésaïe 40, au verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Même quand on est vieux. C'est drôle, hein? C'est bizarre, hein? Mais c'est des promesses. Dieu nous renouvelle. Il renouvelle nos forces. Il nous fait aller de l'avant. Hein? On prend le vol. Moi, j'aime bien prendre mon vol. Donc, c'est merveilleux. Mais il s'adresse à qui? À ceux qui se confient dans l'Éternel. Se confier dans quelqu'un, c'est avoir confiance. C'est si je suis capable de me confier dans tout, par exemple, c'est que j'ai confiance en lui, c'est que je le connais, c'est qu'on a voyagé ensemble, on a été sur le plateau du Bémara, on a mangé du sanglier ensemble. Et d'autres choses. Hein? C'est bon. Mais c'est ça. J'ai confiance en tout. Comme j'ai confiance en Jean-Christophe. On a volé ensemble quelques fois depuis qu'on est ici. Je ne suis pas compté, mais ça fait quelques fois, hein, Jean-Christophe. Et j'aime voler avec lui. J'aime être dans l'hélico quand il pilote. Parce qu'il sait. Il sait que j'étais aussi pilote dans une autre vie et que j'aime toujours ça. Et voilà, il sait. Donc, ensemble, on sait. Et on s'amuse bien, j'ai confiance. Je peux me confier en lui. Comme en toutes vous, je peux aller raconter ma vie, dire, ouais, tu sais, il m'est arrivé un truc. Je ne sais pas comment, mais c'est pas bien. Il faut qu'on en parle. Parce que je sais qu'ils ne vont pas me condamner. Parce que je connais leur foi. Parce que je sais en qui ils ont cru. Et si j'ai un problème que je me suis laissé avoir par l'ennemi, je sais qu'ils sont capables de prier pour que l'ennemi lâche prise. Et ensemble, on est fort. Mais pour ça, il faut savoir se confier. Et c'est ceux qui se confient en l'Éternel, qui ont confiance en l'Éternel. Autrement dit, c'est ceux qui ont la foi. Parce que la foi, ce n'est pas simplement croire. On peut croire dans des tas de choses. Mais la vraie foi, c'est quoi? C'est avoir confiance en Dieu. Savoir que ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est la vérité. Il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à reprendre. C'est la vérité. Et je peux m'appuyer pleinement sur cette vérité, sur cette parole. C'est lui qui l'a donnée. C'est ça, la foi. Donc, c'est notre privilège à nous qui avons la foi. Dieu s'occupe de nos montagnes, de nos incapacités. Il est là. Soyez bénis. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu parles chacun à nos cœurs. Qu'elle puisse pénétrer au-delà de nous et nous révéler pleinement la facette, cette face, ton amour, Seigneur. Qui tu es vraiment. Tu n'es pas celui qui condamne. Tu dis, je ne suis pas venu condamner le monde, je suis venu pour le sauver. Et ça, c'est une réalité. Tu es venu pour nous sauver. Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux que tu as, les oreilles que tu as, la bouche que tu as, pour encourager, exhorter, fortifier nos frères et sœurs, en se fortifiant les uns les autres, par ta grâce. Que le jugement ne fasse pas partie de nos cœurs, dans nos vies. Que vraiment nous soyons conscients que sans toi nous ne sommes rien, que nous avons toujours besoin de cette faveur imméritée, de ta grâce qui coule dans nos vies, Seigneur, jusque dans l'éternité. Amen. Soyez bénis.
Merci beaucoup, Denis. Merci au Seigneur. Juste un petit rappel, dimanche prochain, on vous invite à ramener quelque chose à manger et aussi à ramener des amis, si c'est possible. Et c'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine fois. Dieu vous bénisse.